Bonsoir. La Cour constitutionnelle a déclaré recevable et fondée la requête de la CENI du 17 septembre 2016 demandant le report et la convocation des élections au-delà des délais constitutionnels. Seuls 5 juges sur les 9 qui composent cette Cour ont siégé pour rendre cet arrêt. Cependant, la plénière a connu plusieurs reports pour obtenir le nombre de 7 juges minimum requis par la loi pour siéger et délibérer valablement. Quelle analyse faire de cet arrêt? Nous en parlons avec professeur Tshibangu Kalala. Il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa et président du parti politique de notre beau pays. Membre de la dynamique de l'opposition et des rassemblements. Bonsoir, professeur Tshibangu Kalala.
Bonsoir, Guy Marté.
Maître Lucien Louko, il est avocat et chercheur en droits humains. Bonsoir, Maître Lucien Louko.
Bonsoir, Guy, et bonsoir à tous.
Et lui vient de nous rejoindre, c'est M. Yves Kisombe, juriste et cadre du PPRD. Il est aussi l'un des communicateurs de la majesté présidentielle. Bonsoir, M. Yves Kisombe.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Cour constitutionnelle a déclaré la requête de la CENI du 17 septembre 2016 recevable et fondée. C'est à l'issue de l'audience publique de plus de 5 heures tenue ce lundi 17 octobre à Kinshasa, au siège de la Haute Cour. Cette requête portait sur le report de la convocation et de l'organisation des élections en RDC au-delà de l'année 2016. Les détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Devant la Cour constituée de 5 juges, le président de la CENI a donné les raisons qui ont poussé la centrale électorale à saisir la Cour constitutionnelle. Corneille Nanga a cité les contraintes d'ordre technique, opérationnel, logistique, légal, sécuritaire et financier. Après débat et délibération, la Cour a constaté l'impossibilité pour la CENI d'organiser les scrutins prévus dans son calendrier de 2015. Luamba Binda Benoît est le président de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de constitutionnalité, se déclare compétente, dit la requête recevable et fondée.
En réaction, le secrétaire exécutif national de la CENI s'est montré satisfait de cet arrêt de la Cour, Maître Ronsard Malonda.
L'arrêt autorise la CENI de publier dans un délai raisonnable le calendrier qui tienne compte de toutes les exigences techniques et opérationnelles.
Ainsi dit, la Cour autorise la CENI à élaborer un nouveau calendrier électoral dans un délai objectif et raisonnable exigé par l'opération de révision du fichier électoral.
Merci Jean-Désiré Kanyama. Maître Yves Kisombe, je rappelle que vous êtes juriste et cadre du PPRD, vous êtes aussi l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare la requête de la CENI recevable et fondée et donc accepte que les élections soient reportées au-delà de 2016?
Moi, la chose la plus importante qu'il me paraît indispensable de souligner, c'est que dans un état de droit, dans une démocratie, il y a des règles dont on ne peut se départir dans la vie quotidienne. En ce qui concerne l'interprétation de la Constitution, en ce qui concerne la constitutionnalité d'une démarche auprès de la Cour constitutionnel précisément, il faut rappeler que la Constitution, donc le peuple congolais, nous dit elle statue en premier et en dernier ressort. Alors je veux bien, le débat juridique peut avoir lieu, mais moi, je suis face à une responsabilité patriotique et politique majeure. C'est celle de rappeler que le pacte républicain veut que le débat politique ne soit pas le terrain de la redéfinition du travail de la justice, ne soit pas le terrain où l'on refait le travail des hauts magistrats. Donc, moi je ne suis pas venu pour refaire le travail de ces hommes qui ont été choisis pour leur maîtrise du droit constitutionnel, du droit en général. Donc ce sont de hauts magistrats, de la trempe en termes de connaissance du droit, du professeur Tshibangu Kalala, de maître Ruffin Loco. Et donc, je pars du principe que lorsqu'il déclare une requête recevable et fondée, ils sont les seuls autorisés, je dis bien autorisés, au sens de la loi, à avoir l'autorité scientifique et constitutionnelle suffisante pour le faire. Oui, donc la remise en question de leur autorité sur le plan juridique, moi, je crois que ça entre dans un risque de fragilisation du pacte républicain. Ah, et donc ici, je dis que ici, même si
ici,
sur le
il
fond...
Il ne s'agit pas de la remise en question, n'est-ce pas, de l'autorité des hauts magistrats.
Ah mais
Maître Yves,
votre question...
La décision a été prise par la haute cour. Et c'est une décision qui suscite beaucoup d'interrogations.
Oui.
D'abord par rapport, vous avez parlé du caractère constitutionnel de la décision... La saisine de la haute cour par la CENI était-elle régulière dans le sens que la centrale électorale ne figure pas sur la liste des organes qui doivent, n'est-ce pas, qui sont habilités à saisir la cour constitutionnelle en cette matière précise?
J'ai envie de vous répondre vraiment avec un réflexe de juriste et de lancer le débat. Évidemment que la CENI a une compétence légale en ce qui concerne le dépassement des délais pour demander à la Cour constitutionnelle, on l'a vu en 2006, le report de la tenue des élections. Mais au-delà de ça, le plus important pour moi, c'est de souligner le fait qu'il me paraît à la limite immoral, je dis bien, de revenir ici faire, dans le débat public, à la limite, quelqu'un de la qualité de ceux qui sont autour de cette table, mais vous avez le commun des mortels qui se met, sans titre ni qualité, j'allais dire même intellectuel, à remettre en cause le travail de la Cour. Alors laisser à des gens comme Tshibangu Kalala émettre des réflexions, comme Ruffin Loco, je veux bien, mais avec le risque tout de même qu'ils sortent du pacte républicain. Et c'est pour ça que moi je vous dis que si vous pensez bien que même s'ils sont à un stade de perte de la raison, si la CENI n'a pas qualité pour poser la question qu'elle a posée à la Cour constitutionnelle, vous pensez vraiment, même si nous sommes dans une république bananière, allez, vous pensez vraiment que la Cour va déclarer une requête recevable dans ces conditions-là? Donc je pense que nous ne devons pas faire injure à la plus haute instance juridictionnelle de notre pays.
L'autre question, c'est le fait que la Cour a rendu son arrêt sans quorum requis. Maître Yves, n'est-ce pas une violation flagrante de l'article 90 de la loi organique de la Cour constitutionnelle?
Je ne peux pas partir du principe, de par ma formation de juriste, de par ma qualité d'avocat, de par ma qualité de citoyen, je ne peux pas partir du principe qu'une question aussi élémentaire que celle du quorum ait été purement et simplement bafouée par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas possible. En l'occurrence, il s'agit d'un quorum tout à fait conforme aux règles de procédure parce que ayant atteint le nombre de convocations ou le nombre
Là, vous basez sur quel test?
Non, je me base, il y a la procédure.
Les nombres requis, c'est 7 membres, c'est 9.
Pourquoi vous parlez de texte uniquement? Moi, je ne suis pas là pour refaire le débat. La Cour constitutionnelle a bien dit, elle connaît la loi mieux que vous et moi, elle a bien dit que la composition est régulière et qu'elle peut statuer. Parce que, dans la pratique... dans la pratique de la procédure, la Cour sait qu'elle peut le faire conformément à la loi. Il y avait 5 hauts magistrats présents sur 9. Le quorum atteint dans ces conditions de report successif, était tout à fait légal. Et la Cour nous l'a dit. Moi, je fais confiance à la Cour constitutionnelle pour des questions élémentaires de procédure.
Merci, professeur Kibam Kalala, professeur de droit à l'Université de Kinshasa et président du parti politique Notre Beau Pays, membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Votre réaction par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Merci beaucoup, Monsieur Guimaté, pour m'avoir associé à cette émission et à travers vous à toute l'équipe de rédaction de Dialogue entre Congolais. Je commence d'abord par saluer mon ami Yves Kisombe, on se connaît depuis déjà des années, et mon confrère maître Guimaté. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire ceci, de vous donner mes états d'âme. Je suis un homme révolté ce soir.
Pourquoi ?
Je suis un homme en colère ce soir. On ne peut pas humilier un grand pays comme le nôtre de cette façon-là. On ne peut pas ridiculiser un grand peuple africain comme le peuple congolais, comme ça vient de se passer à la Cour constitutionnelle. Guimaté, nous sommes sidérés. Mes collègues profs de droit, car c'est le droit public, je vois mon ami professeur Ndioli, André Mbata et autres, ce qui vient de se passer à la Cour constitutionnelle est inqualifiable. Finalement, la révolution qu'il faut faire dans ce pays, et là je m'adresse à notre peuple et à mes amis politiques du Rassemblement, la révolution qu'il faut faire dans ce pays, c'est finalement la révolution judiciaire. On est tombé très très bas, Guimaté. Il faut finalement appliquer la stratégie de la piscine dans ce pays.
C'est-à-dire?
Et donc, quand dans une piscine, l'eau devient sale, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'eau sale de la piscine, on y met une nouvelle eau, eau propre. Je crois que la piscine judiciaire dans notre pays est très sale. Il faut l'éviter.
Lorsque vous dites que la décision prise par la Cour constitutionnelle humilie, n'est-ce pas, la République, vous voulez dire quoi par là?
Je vais y arriver maintenant. Je vais répondre à votre question. Qui m'a dit pourquoi j'ai dit tout cela? Eh bien, la loi qui organise la Cour constitutionnelle, dit en son article 90, là je parle d'abord de la forme, et c'est très clair, que la Cour ne peut, voilà, c'est juste comme ça, c'est l'autre peuple qui dit ça, la Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, ils sont 9, qu'en présence de tous ses membres. C'est la loi organique qui le dit. Sauf, exceptionnellement, la Cour peut siéger à 7 membres, tout en justifiant pourquoi les 2 autres ne sont pas là. Voilà. Parce qu'ils ne sont que 9.
Dans le cas d'espèce, c'est 4 membres qui étaient à
voilà.
Fond.
Bah, écoutez-moi, j'ai plaidé devant la Cour internationale de justice plusieurs fois à La Haye, devant 15 juges permanents, plus 2 juges à 17. Et quand le président de la Cour internationale de justice prend la parole au début de l'audience, si un juge est absent, il s'adresse à l'audience pour dire, vous voyez, nous sommes 14 sur 15, tel est absent pour des raisons que je connais. Voilà. Et c'est ce qui est dit dans notre loi, la loi sur la Cour constitutionnelle. Il faut que les 2 absents, s'il y en a tous absents, il faut que cette absence soit motivée. Il faut que les 7 autres prennent acte du fait qu'il y a 2 qui sont absents. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas d'espèce, Guimaté? Il y a 5 juges qui siègent sur 9. Il y a 4 qui sont absents. Donc le siège est totalement irrégulier. D'autant plus qu'avant, il y a eu plusieurs reports d'audience parce qu'il s'est retrouvé à 6 plusieurs fois et quand il renvoyait parce que le quorum n'était pas atteint. Ça, c'est la loi organique qui le dit.
Oui, c'est vrai que les forums n'étaient pas atteints conformément à l'article 90 de la loi organique, mais est-ce que la Cour ne s'était pas sentie dans l'obligation de prendre cette décision compte tenu du délai maximum que la loi lui accorde, qui est de 30 jours, si elle n'avait pas décidé hier, elle irait au-delà de ce délai, n'est-ce pas?
Guimaté, On ne peut pas prendre des libertés avec les lois de la République. Vous n'allez pas commencer à tordre le cou à la loi pour des raisons de convenance, etc. La loi est claire. Il y a un quorum pour siéger et il y a un quorum pour délibérer, pour décider. C'est clair. Le quorum est de 7 membres minimum. Eh bien, si ce quorum n'est pas atteint, la Cour ne doit pas siéger. D'autant plus, d'après ce que nous appelons maintenant, les autres membres absents sont dans la ville. On a vu même certains au palais de justice qui ont refusé d'aller siéger.
Et au-delà de la forme, les fonds, comment vous analysez?
Par conséquent, l'irrégularité qui a été commise, Guimaté, je vais essayer, est telle, je dirais même la bêtise est telle, que la conséquence en droit, c'est l'inexistence de l'acte qui a été commis, qui a été posé. Donc, à cause de cette immense irrégularité, une immense bêtise, en droit, quand on se trouve devant une telle irrégularité monstrueuse, la conséquence est que l'acte qui a été posé est frappé d'inexistence.
Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de l'article 168 de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires?
Guimaté, c'est une honte terrible pour ce pays. Cet arrêt qui a été rendu dans ces conditions-là, cet arrêt est inexistant. À cause de cette immense bêtise. La loi dit que vous devez siéger à 7, vous siégez à 5.
Alors, la loi dit que vous devez inexistant sur base de quel
c'est un principe général du droit que nous enseignons dans toutes les écoles de droit. Lorsqu'on se trouve devant un acte qui a été pris, imaginez-vous si c'est le bourgmestre de la commune de la Gombe qui prend un arrêt. Moi, je siège comme cours, je prends un arrêt. Vous allez accepter cela? Donc, quand on se trouve dans cette hypothèse-là, la théorie générale constate, on doit constater que l'acte est d'une irrégularité telle, a été adopté dans des conditions irrégulières d'une gravité telle que cet acte est censé n'avoir jamais existé. Cet acte est inexistant, comme on dit en droit, ab ovo. Donc, au moment même où ça laisse, cet acte est censé n'avoir jamais été adopté. Merci. Donc, sur le plan seulement de la forme. En plus, pour les conditions de recevabilité et Guimaté, vous l'avez souligné vous-même, quand vous lisez l'article 161 de la Constitution, mais la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour s'adresser, et la CENI ne peut pas s'adresser à la Cour constitutionnelle.
On va y revenir, professeur.
Sur l'article 161. Donc, sur les questions des formes, notre peuple doit noter, à cause de cette irrégularité inadmissible, que l'arrêt est censé n'avoir jamais existé.
Maître Griffel Louko, avocat et chercheur en droits humains, votre analyse par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Bon, merci d'abord pour l'invitation, et puis vous m'appelez chercheur, je vais me limiter à cette qualité-là. Je vais ramener les débats, pas au plan politique, les politiciens sont là pour faire la chose, je veux les ramener uniquement, ou les canaliser, ça veut dire mon propos, sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique. Vous me demandez mon analyse, je commence d'abord par nous attendions la Cour rassurer la population et nous tous par rapport à ce qu'elle donnera comme réponse. Nous nous rappelons que celle qui l'a saisie, c'est la CENI, et elle a saisi la Cour le 16, alors qu'elle avait l'obligation de convoquer les corps électoraux le 18.
Le
19. Elle a saisi. C'était deux jours avant.
Le 17.
Le 17. Donc ça veut dire deux jours avant. Qu'on retienne que la CENI.
À la veille
du délai. C'est à ce moment-là que la CENI a déposé sa requête. Alors, maintenant qu'elle a saisi les juges compétents, ça veut dire les juges chargés de l'interprétation de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Il y a un problème, un premier principe que je vais lire, qui se trouve posé par la Constitution, l'article 21, dit ceci, alinéa 1er, tout jugement est écrit et motivé. Il est pour prononcer en audience publique. Ça, c'est le principe. Ce principe ici, c'est que toute décision chez nous au Congo doit être motivée. Vous devez dire aux gens, d'abord qui sont concernés par la décision, et à tous, que voici les motifs pour lesquels vous avez décidé dans ce sens ou dans cet autre.
Maître, c'est une obligation. Vous couper, pour justifier cette décision prise pendant que le quorum n'était pas encore atteint, la Cour a évoqué l'argument de l'importance de la cause.
Bon, c'est-à-dire, je suis en train de réagir par rapport à tout ce que nous avons vu, suivi, n'est-ce pas, et lu. Alors, voici le principe. Ça, c'est d'abord le principe motivation. La population congolaise a droit de savoir pourquoi l'on a décidé comme ça. Ça, c'est la motivation. Donc, dans la décision, on doit dire, voici, attendez que ceci, on doit nous dire. Alors, le premier principe qui gère la Cour constitutionnelle est posé dans le titre 5. Ce titre parle de la procédure. Le titre, vous le voyez, il parle de la procédure. C'est le titre qui règle donc comment les choses doivent se passer devant la Cour constitutionnelle. Alors, je vais aller rapidement. Chapitre 1er de ce titre 5, des dispositions communes. Il commence par l'article 88, 89, 90. L'article 90 dit ceci. La Cour ne peut valablement siéger. Et ça, c'est un seul année. La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf, et voici le sauf, sauf empêchement temporaire d'aider d'entre eux tout au plus. D'aider d'entre eux tout au plus, dûment constaté par les autres membres qui vont siéger. Ils doivent constater que les autres sont empêchés, maladie, éventuellement éloignement du pays, et consort. Ça doit être constaté. Alors, là, ils ont siégé à 5. D'abord, la particularité, c'est qu'il y a eu des remises précédentes pour dire que nous ne pouvons pas siéger. Ça, c'est la Cour, parce que nous sommes irrégulièrement composés, tout simplement parce qu'il y a d'autres juges qui ne sont pas là. Et là, ils étaient à 6. Maintenant, à cette audience où ils ont statué, ils se retrouvent à combien? Ils se retrouvent à 5 et ils siègent sans avoir préalablement constaté que non seulement la loi les empêche de statuer lorsque plus de deux sont empêchés, mais qu'ils aussi on doit constater.
Et alors, lorsque je vous ai posé cette question-là, lorsque la Cour évoque l'importance de la cause comme argument.
Bon, d'abord, toutes les causes qui sont soumises à la Cour constitutionnelle sont importantes. Sinon, la Cour a la possibilité, comme elle le fait maintenant, de ce qu'on appelle filtrage. Les causes qui sont quelconques ne sont pas fixées devant la Cour. Donc, les greffes les évacuent aussitôt. Au niveau des greffes, au niveau des juges référendaires, on évacue toutes les questions, donc toutes les actions par lesquelles on saisit la Cour et qui sont des actions quelconques. On ne les fixe pas. Déjà, on les évacue. Alors, donc, toutes les actions qui sont fixées sont des actions importantes. Alors, pour rester en ce qui concerne ce que je vous ai dit, canaliser mon propos, que ce soit uniquement scientifique, d'abord, la Cour constitutionnelle avait l'obligation de régler la question de savoir, parce que lorsque vous lisez tout, l'économie de ce texte ici donne le minimum de délai, c'est
30 jours.
Non, il y a plusieurs délais. Il y a 30, il y a 10, il y a 15. Et de tous ces délais-là, il dit qu'en cas d'extrême urgence, on peut ramener ces délais-là, de 30, de 15, de 10 à 8. Le minimum, c'est 8 jours pour que la Cour se prononce.
Le maximum, c'est 30 jours.
Alors, le maximum, c'est 30. Dans tous les cas d'espèce, du régime de cette loi, on peut ramener au minimum 8 jours. Alors, est-ce que lorsque la CENI vient saisir la Cour constitutionnelle, 2 jours avant les délais pour lesquels il demande l'interprétation, est-ce que cette requête-là n'était pas tardive, ne fût-ce que dans sa forme? Le fait de venir déposer une requête le 17 et que le délai où vous devez convoquer le corps électoral, c'est le 19. Donc, est-ce que cette requête-là n'était pas déjà tardive? Ne mettez pas la Cour dans l'impossibilité de ne pas se prononcer pour trancher par rapport aux délais qui sont fixés par le législateur que la Cour devait respecter. La Cour avait l'obligation de régler cette question-là, de la recevabilité par rapport au caractère tardif de la demande. Et aussi, l'article 85.
La loi organique.
L'article 85. La Cour est saisie, un, par le gouvernement de la République, réunie de toute urgence en Conseil des ministres. Je veux donc épargner la population de toutes les parties qui sont, n'est-ce pas, nommément citées en ce qui concerne celles qui ont qualité à saisir.
Vous voulez dire quoi?
Je veux dire tout simplement que dans l'énumération du législateur, la CENI n'est pas énumérée comme une partie qui a qualité à saisir la Cour constitutionnelle en tant que telle. Je termine en disant, la Cour avait le devoir, parce que lorsque nous lisons l'arrêt, nous constatons que la Cour vient de consacrer quelque chose d'extraordinaire. C'est de laisser la CENI organiser une refonte du fichier électoral totalement, sans la moindre autorisation du peuple, ça veut dire du Parlement. La CENI n'avait pas droit, laisse-moi terminer Guy, la CENI n'avait ni droit, ni qualité, ni pouvoir. Pendant qu'elle a crié tout ce temps, qu'elle a droit, qu'elle veut juste arroler les nouveaux magistrats.
On va y revenir, maître. On a compris.
Non, j'aimerais on est juste terminer, c'est parce qu'il y a un problème sérieux de refondre les fichiers électoraux, alors que des partis de la République, et notamment les partis qui sont l'Est du pays, qui a des problèmes de population, des six populations, les problèmes des populations venus des pays voisins n'est pas réglé. Il y a non seulement l'Itourie, les bases où elle est, il y a la question n'est pas réglée. La Cour constitutionnelle aurait dit, et vous me donnez la parole pour que je donne des précisions, aurait dit demander à la CENI d'où lui vient le pouvoir de refondre tous les fichiers électoraux.
Merci, maître Yves Kissombé. Il y a une question qui vous est adressée, c'est une réflexion qui vient de Mboujimaï.
Franck Noble Moké à partir de Mboujimaï. À mon humble avis, l'arrêt de la Cour constitutionnelle renforce la crise politique que tout pauvre citoyen congolais ne fait plus. Et M. Yves sache que cet acte prouve la violation de notre constitution. C'est déjà une menace au peuple souverain. Mais il ne se laissera pas faire.
Oui, c'est ce que je craignais, que nous sombrions dans le débat politique réel, mais avec en filigrane des apparences d'objectivité scientifique et intellectuelle. Qui perd de vue que moi qui vous parle, juriste de formation, vous l'avez dit, je suis d'abord un acteur politique. Qui oubliera que le professeur d'université Tshibangu Kalala est membre du rassemblement de l'opposition, l'opposition radicale, pour ne pas dire radicalisée. Qui perd de vue que nos sensibilités politiques influencent notre jugement juridique, notre appréciation juridique? Moi, je vais vous dire une chose, mais quand j'entends Maître Ruffin et le professeur Tshibangu, j'ai envie de leur arracher la parole pour dire autrement ce que eux-mêmes ont dit. Quand le professeur Tshibangu Kalala souligne que le quorum n'est pas atteint, qu'il y a eu plusieurs remises, reports, serait-il en train d'évoquer le déni de justice comme étant le but des magistrats qui se seraient volontairement absentés? Parce que plus que le quorum, le fait de vouloir commettre un déni de justice au plus haut sommet de l'appareil judiciaire, si tel est le cas, alors je pense que c'est bien plus important et que l'esprit de la loi, moi je pense que la Cour constitutionnelle n'a pas de leçon de droit à recevoir de qui que ce soit. S'il vous plaît, et en tant que juriste, je vous dis, le prolongement, s'il vous plaît, moi je n'ai pas voulu...
On se rend compte que les juges s'absentent,
s'il vous plaît,
des audiences,
s'il vous plaît,
le quorum n'est pas atteint.
Je vous dis, en termes de communication politique, venir à une antenne de radio pour sortir des articles de loi technique sur la place publique, c'est se tromper d'auditoire. On peut y faire référence de manière succincte, mais je crains que, par exemple, Maître Ruffin Loucault ne soit pas à l'aise dans cet espace. Parce qu'ici, il faut faire passer un message juridique, oui, mais citoyen. Ici, moi, j'affirme que la Cour, en évoquant, comme vous l'avez dit, l'importance de la cause. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit de la vie de la nation que le prolongement de cette loi de cet article 90 sur la composition de la Cour, le prolongement. La loi n'est pas faite, un article même de procédure. Vous connaissez le but de la procédure ? C'est l'efficacité. Et M. Tshibangu-Kalala le sait, le professeur, c'est l'efficacité. Pourquoi la procédure existe ? Pour faire aboutir des actions. Hein, des actions, des demandes au civil, une action pénale en matière constitutionnelle. Le but de la procédure, c'est l'efficacité. Et lorsque des magistrats sont absents, parce que moi j'imagine, je présume qu'il s'agit d'une impossibilité physique, mais je suis sidéré d'entendre M. Tshibangu-Kalala nous informer, c'est pas à son fait, il nous apprend, je l'en remercie, que certains hauts magistrats auraient donc délibérément manquer à leur devoir de siéger, chose bien plus grave si tel est le cas, que le fait de passer outre leur absence. Parce que le prolongement de la loi dans son esprit, c'est de faire que si l'impossibilité physique est constatée au niveau de quatre magistrats, eh bien, en termes de report, même si ce n'est pas dit expressis verbis, je pense que la volonté du législateur, ce n'est pas que la Cour ne siège pas. Donc il ne faut pas ériger cette règle formelle en principe absolu qui peut bloquer la vie d'un pays. Parce que le professeur ne raisonne pas ici, vous l'avez vu, je lui fais évidemment toute la reconnaissance de ses compétences, mais je dis ici que je crois que la dimension politique de la motivation de son propos prend le pas sur ses qualités de grand juriste. Parce que on ne peut pas imaginer qu'une Cour constitutionnelle soit bloquée du fait de l'absence et du déni de justice commis par certains de ses membres.
Par rapport au caractère tardif de la requête de la CENI évoquée par Maître Rifin Louko et au caractère inexistant, n'est-ce pas, de l'arrêt du
oui, tout à fait.
De ce caractère irrégulier.
Non, là, encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord. Le professeur invoque la théorie générale pour dire que l'irrégularité à ce niveau entraîne l'inexistence de l'acte. Moi, je dis pas du tout. Et quand bien même ce serait le cas, qui constate cette inexistence ? Comme ça, de facto. De facto. Non, ce sont les professeurs d'université, ce sont les avocats, c'est qui ? La société civile ? Chacun y va de son jugement de la Cour constitutionnelle. Donc moi je crois que ça, nous sommes dans une crise dans notre pays.
Merci.
Nous sommes dans une crise qui tend à l'anarchie. Nous sommes en train d'aller vers l'anarchie.
Merci, Maître Yves Kissombe. Professeur Tshibangu-Kalala, il y a une réflexion qui vient des Dilolo pour vous.
Jacques Cassin est député Dilolo dans la province du Lélaga. Je pense que c'est une grande responsabilité que la Haute Cour a prise dans la mesure où elle met fin à l'anarchie que certains opérateurs politiques prétendent imposer à la République au nom de ce qu'ils qualifient de respectifs de la Constitution. Cependant, il est grand temps que les différents protagonistes de la processus électoral s'inspirent des conclusions du dialogue politique afin de permettre à la CENI de rattraper le temps d'organiser les élections conformément à l'accord politique qui, à mon avis, semble sauver le pays bien que les élections ne se soient pas organisées avant fin 2016.
Où penses-tu encore là ?
Oui. Guy Maté, je voudrais dire quelques mots à mon ami Yves Kissombe.
Donc, par rapport à la réaction de Didolo ?
La réaction, j'ai bien noté. Je comprends. Qu'est-ce que signifie l'état des droits ? Parce que l'ami de Didolo donne des leçons, disant, bon, il faut accepter le fait accompli, il faut qu'on avance, etc. Bon, je comprends. Qu'est-ce que signifie l'état des droits ? L'état des droits, c'est l'état dans lequel règne la primauté de la règle de droit. Tout le monde doit être soumis à la loi. À commencer par la Cour constitutionnelle, qui doit commencer par respecter la Constitution, respecter même la loi qu'il a créée, la loi organique. Et cette loi interdit à la Cour de siéger au nombre de moins de 7 membres.
Et nous voulons dire que la Cour a violé la loi qu'elle est censée protéger.
Mais elle a scié la branche sur laquelle elle est assise. Ça, ce n'est pas un problème d'être politicien ou c'est la lecture. Je vais rappeler que la Cour constitutionnelle a été créée par le peuple pour rendre service à notre peuple. Et le peuple est en droit de juger, d'apprécier le fonctionnement de telle ou telle institution. Si telle ou telle institution lui rend service, oui ou non. Dans tous les pays du monde, s'il y a une mauvaise décision judiciaire, le peuple proteste. La justice est rendue au nom du peuple. Et le peuple est en droit de vérifier de voir si les institutions judiciaires mises en place pour rendre justice dans le pays et dans le cas d'espèce pour assurer l'ordre constitutionnel, est-ce que cette institution fonctionne correctement. Dans le cas d'espèce, nous voyons que la Cour constitutionnelle viole et la Constitution et la loi de la République.
Vous, vous, êtes conseillère des droits, vous êtes conseillère des droits et qu'est-ce que la loi a prévu dans les cas où, n'est-ce pas, la Cour prend des décisions qui semblent violer la loi.
Très bien. Mais la loi ne peut pas prévoir tout. Vous comprenez? Le rassemblement a raison de dire, dans le cadre du conclave, qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux institutions établies pour assurer la défense de la Constitution. Et nous avons dit, et c'est très clair, que maintenant, c'est le peuple qui doit maintenant assurer la protection de la Constitution.
Et concrètement, qu'est-ce que le peuple préférait?
Dans le cas d'espèce.
Qu'est-ce que le peuple préférait pour manifester ce mécontentement?
Dans le cas d'espèce, Guy Maté, la Cour constitutionnelle a fait la honte de la République. Une République qui est qualifiée de démocratique. La Cour constitutionnelle, totalement inadmissible. Je vais Yves Kissombé, que ce n'est pas le problème d'être opposant. Je pense que vous qui êtes dans la majorité, vous ne pouvez d'une Cour constitutionnelle qui se comporte de cette manière. C'est totalement inadmissible.
Et s'il faut parler du fond de la question.
La question que Yves Kissombé pose en disant, mais oui, mais c'est une question importante. Mais tout est important. Ou de dire qu'il y a eu des niches de justice. Mais on ne peut pas rendre justice en violant les lois de la République. C'est totalement inadmissible.
Merci.
Nous pouvons au moins sur certaines choses, parce qu'il est question de la RDC, il est question du peuple congolais, il est question de l'état de droit, nous pouvons tout de même, que ce soit la majorité ou l'opposition, considérer de manière objective, en mettant l'intérêt général en place pour dire que là, effectivement, la Cour constitutionnelle s'est mal comportée.
Merci, professeur Kibon Kalala. Maître Eric Fanouko, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Comment pouvez-vous justifier plusieurs reports de la plénière pour obtenir le nombre de 7 juges minimum requis par la loi? Deuxièmement, j'aimerais savoir, la Cour constitutionnelle est d'avis de la CENI que les élections se passent au-delà des délais constitutionnels. Quelles en sont les raisons majeures fondées? Est-ce que ceci est conforme à la législation congolaise?
Oui, maître Rufalouko.
Alors, bon, rapidement... D'abord, contrairement à Maître Chibangu, je veux dire que les institutions doivent être respectées. Moi, en tant que chercheur, j'ai prêté serment du respect des institutions. Les institutions doivent être respectées. Ce que nous faisons, c'est la contribution pour que les choses aillent de mieux en mieux. C'est ce que nous faisons ici. C'est pourquoi je vous ai dit que mon discours sera essentiellement scientifique. Voilà, donc je me limite à ce niveau-là et que mon propos soit bien entendu en tant que tel. Alors, le report, la Cour a dit que la requête de la CENI est fondée et que les motifs d'impossibilité d'organiser les élections dans les délais, ces motifs-là sont donc valables selon la Cour constitutionnelle et en conséquence autorisent la CENI de fixer un autre calendrier électoral dans un bref délai.
Est-ce que en saisissant la Cour constitutionnelle, la CENI n'avait pas placé cette Cour devant un fait accompli
c'est maintenant le débat scientifique. Sur cette antenne, et là j'ai rejoint Yves Kissombé, plus ou moins légèrement, en disant ceci, rejoindre sans rejoindre, en disant que par rapport au prolongement, on n'aurait pas dû demander aux cours et tribunaux dans notre pays chapeauté par la Cour constitutionnelle de régler la question. C'est une question politique, c'est un piège parce que là, qui vient de régler cette question-là? Aujourd'hui, celui qui vient de régler, c'est le dialogue. Le dialogue vient de régler la question. On n'aurait pas dit, et pourquoi la Cour ne pourrait pas dire exactement de se déclarer comme elle le faisait en Deuxième République avec le président Luamba Bindu?
Oui, elle
s'est déclarée toujours à ces matières-là incompétente.
Vous voulez dire que dès lors que la CENI avait présenté ses indications devant la plénière des dialogues, elle n'avait plus besoin d'aller saisir la Cour constitutionnelle.
Elle était où? C'est ce que nous reprochons, nous, à nos acteurs. Leur façon de faire toujours, la plupart des choses, même si vous avez le moyen, mais toujours maladroitement.
Elle était où? Elle était en train de se fourvoyer dans des dialogues, alors que si elle avait à poser la question à la Cour constitutionnelle, elle aurait dû lui poser ou lui soumettre cette requête dans les temps.
Et comment alors, vous avez trouvé la suite du processus électoral en RDC après cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Bon, la Cour constitutionnelle n'aurait pas dû intervenir dans ces affaires. Surtout que c'est question de prolongation du mandat ou du mandat du chef de l'État. Cette question-là, la Cour constitutionnelle qui est la gardienne, la surveillante, la dépositaire, la défenseure, s'il faut la qualifier comme ça, de la Constitution, n'aurait pas dû intervenir.
Alors, qu'est-ce qui va se passer après?
Bon, ce qui va se passer après, ce sont les politiciens qui vont décider. C'est ça, parce que la loi ne prévoit rien. Sa décision là est susceptible.
Comme les politiques peuvent aller au-delà de la requête de la Cour constitutionnelle.
C'est-à-dire, non, mais en définitive, c'est. Bah, en fait, lorsque j'ai dit les politiciens, les questions politiques ne sont pas réglées par les cours et tribunaux. Ce sont les politiciens qui doivent régler ces questions-là. Donc, je crois que si on peut faire confiance à l'accord vient de régler la question, en dépit du fait que les gens. On rouspillait en considérant que les délais sont très longs, mais au moins l'accord a réglé la question en ce qui concerne la prolongation. Ce n'était pas une juridiction.
Les élections en avril 2018.
Hein. Maintenant, ça donne l'impression que la Cour constitutionnelle va continuer comme ça en injectant son doigt, n'est-ce pas, dans ces conflits politiques et. Ce n'est pas elle qui s'en sortira.
Et en conclusion, Maître Ruffin Lecour.
En conclusion, donc, nous considérons que notre pays a de la chance d'avoir de la voix, parce que tout le monde n'est pas des gens qui ne réfléchissent pas. Nous avons des personnes qui réfléchissent dans ce pays, et que donc, pour des questions aussi fondamentales, merci. Il faut demander, n'est-ce pas, aux intelligences du pays de proposer des voies pour que nous nous en sortions.
Maître Yves Kissomé, comment vous entrevoyez la suite après cet arrêt? Ça sera votre conclusion.
Ah mais moi je suis là pour entretenir l'espoir. Je pense que le processus électoral va aller de l'avant parce que les passerelles du dialogue, même avec les plus récalcitrants, les plus radicalisés, doivent être maintenues. Je salue la Cour constitutionnelle de mon pays sur le plan juridique, sur le plan citoyen, parce que face à ce qui pourrait être une volonté de déni de justice, elle a fait son devoir. Face à l'importance de la question, elle a fait son devoir. Je pense que dramatiser, comme l'a fait le professeur Tshibangu, cette question de quorum, je pense que ce n'est là que l'expression d'une motivation purement politique. Je pense que sur le plan juridique, le problème ne se pose pas avec cette dramatisation voulue. Non, le Congo n'a pas à avoir honte de lui aujourd'hui. Non, les institutions de notre pays n'ont pas à avoir honte d'elle.
Merci, professeur Kibankalala. C'est quoi la suite après cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Eh bien, pour moi, l'arrêt de la Cour constitutionnelle doit être considéré comme inexistant pour deux raisons. Un, c'est un arrêt rendu par une Cour constitutionnelle irrégulièrement composée, en violation de la Constitution de la République. Deux, arrêt rendu à la demande de la CENI qui n'a pas compétence, qui n'a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Le seul cas où la CENI peut saisir la Cour, c'est dans le cas de période intérimaire. Si les 3 mois ne suffisent pas, la Cour pourrait demander un 4e mois, etc. C'est la seule hypothèse. Ce que la Cour a fait en acceptant la requête de la CENI, c'est une violation flagrante de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a fait la honte de la République. Nous, du Rassemblement, nous envisageons de discuter avec le Président de la République pour régler les questions réglées de manière à stabiliser le pays, à organiser des élections dignes, responsables, claires. Nous allons le faire et nous allons le faire après le 19 décembre.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à toute l'équipe et Dialogue Congolais. Alain Rung, Kéline Couté, Béry Franklin Luchaka sous la supervision de Julien Yamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi du programme sur Radio Capi.